Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette chapelle dédiée à la Vierge Marie pour cette belle fête de l'Assomption. Et Marie est célébrée de tant de manières, avec des titres qui reflètent sa fécondité spirituelle. Il en est un qui est Marie, Mère de la Sainte Espérance. Et c'est vrai que l'Assomption de la Vierge Marie est en corrélation avec et la foi et l'espérance. Elle est gardienne de la foi et mère de la Sainte Espérance. De plus, il se trouve que l'année prochaine, 2025, année sainte, sera consacrée au thème de l'espérance, justement. C'est ce que le pape a demandé. Donc, c'est intéressant de souligner la relation entre l'Assomption et l'espérance, notre espérance chrétienne. L'Assomption, ça donne le sens de la vie humaine, le sens ultime de la vie humaine. Et quel est ce sens? Eh bien, nous sommes ordonnés à l'éternité. Nous ne sommes pas faits pour demeurer sur la terre. Saint Ambroise disait que la mort n'est pas naturelle, mais elle est devenue naturelle, à la suite du péché originel, bien sûr. Et si Dieu nous l'a infligé comme châtiment, il nous l'a proposé aussi comme un remède. Pourquoi ? Parce que personne ne voudrait vivre éternellement dans une vie de frustration, où on ne peut pas atteindre la plénitude de notre être. Une vie de labeur, difficile, imaginez en plus la maladie, imaginez la vieillesse. Personne ne voudrait vivre éternellement sur la terre dans ces conditions-là, dans notre condition actuelle, en un mot. Et en même temps, personne ne veut mourir. Tout le monde essaye de prolonger la vie. Mais voilà, il faut affronter forcément le désir de la mort. Même ceux qui ne sont pas croyants, même ceux qui désirent l'anéantissement de l'âme, même eux désirent la mort finalement. Nous, nous la désirons de façon positive. Et c'est l'Assomption qui nous montre ce chemin de lumière. C'est pour accéder à la vie. C'est pas pour mourir, c'est pour vivre que le chrétien accepte la mort. Bien sûr, il y a une part de purification, donc de châtiment lié au péché. Mais il y a aussi une part glorieuse grâce à la rédemption. Et c'est ça qui est très beau et qui est source de grande force pour nous. Et c'est précisément cela en quoi consiste notre espérance. Saint Augustin disait, finalement, au bout du bout, quand on y pense, eh bien, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons la vie bienheureuse. Et nous ne recherchons pas une réalité négative. Voyez, même ceux qui dans le malheur, envisagent le suicide. C'est pas un désir de la mort qui les pousse. C'est simplement le fait de fuir l'épreuve, la douleur qui les accable. C'est une fuite, c'est pas un désir de la mort. L'être humain ne peut pas désirer autre chose que la vie. En revanche, il peut se tromper de direction. Parce qu'il y a deux directions possibles, en haut, à la suite de la Vierge, ou en bas, à la suite du dragon. L'Assomption, donc, nous donne le vrai sens de la vie humaine. Ce sens est spirituel, puisqu'on ne peut pas demeurer sur Terre. La vie sur Terre, la vie terrestre, n'est pas faite pour être une demeure éternelle, c'est pas possible. Et tout le monde le dit, tout le monde le pense. Marie, on ne fête pas un enterrement aujourd'hui. Marie n'est pas morte. Elle s'est endormie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vécu la définition théologique de la mort, la séparation de l'âme et du corps. Elle n'a pas vécu cette rupture dramatique que nous devrons affronter. Elle est montée aux cieux, elle a fermé les yeux sur la terre et elle est montée aux cieux avec son âme mais aussi avec son corps. Une réalité inimaginable que seul le Christ avait réalisée avant elle et que personne ne réalisera désormais. Voyez le privilège de la Vierge Marie et combien sont profonds et significatifs sa fécondité spirituelle, sa mission, gardienne de la foi, mère de la sainte espérance. L'Assomption et l'espérance en la vie éternelle sont complètement liées. L'Assomption nous montre le chemin de la vie éternelle. Il nous montre le désir de Marie, enfin réalisé, et un désir tellement plein, tellement entier, qu'elle s'en va même avec son corps. Nous n'aurons jamais cette force-là, un désir tel. Mais notre âme désire le même chemin, notre âme désire le même terme. Et c'est un terme de lumière. Ce n'est pas du tout un terme, on n'est pas à un enterrement. On le voit bien, je suis habillé en blanc et pas en violet. Et je n'ai pas besoin de faire l'éloge du défunt parce que Marie est vivante à jamais. La foi dans la vie éternelle, dès maintenant, nous l'obtenons par la vertu théologale de l'espérance. La foi, c'est vrai, donne la vie éternelle, mais c'est l'espérance qui est le moyen concret pour l'assimiler. C'est cet avenir, l'éternité, qui existe, change le présent. C'est ça l'espérance. Vous voyez, c'est ce qui la distingue de l'espoir. L'espoir, c'est la vertu profane qui répond à la vertu théologale de l'espérance. Mais l'espoir n'apporte rien de ce qu'on espère. Tandis que l'espérance, elle, donne déjà cette vie, nous communique déjà cette vie éternelle dès ici-bas. C'est pourquoi on distingue les termes. Espérance n'est pas espoir. Espérance, c'est déjà cette réalité future qui est présente aujourd'hui, dès maintenant. Alors c'est pourquoi foi et espérance sont vraiment très proches l'une de l'autre. On les distingue pour comprendre un peu comment fonctionne la grâce de Dieu dans nos âmes. Mais en fin de compte, foi pour Jean, par exemple, foi, espérance et charité, c'est une seule et même vertu. Et les termes sont interchangeables pour lui. La foi, l'espérance, voyez comme elles sont verticales. Le ciel est notre maison, c'est la grande affirmation de notre espérance, l'espérance de notre cœur, de notre âme, profondément. Notre corps, lui, non, pas trop. Lui, il est fait pour la terre. Un jour, il sera glorifié, mais ce sera vraiment quasi contre nature. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'espérance, à l'image du texte de l'Apocalypse et à l'image du Magnificat, est une réalité déjà présente. Et on la voit agir dans le combat spirituel. Elle est la force, elle est l'énergie, l'espérance qui permet d'affronter ces ténèbres qui s'opposent à nous, qui s'opposent à notre bonheur, qui s'opposent à notre foi, qui s'opposent à notre réalisation plénière. L'espérance est affirmée dans le texte de l'Apocalypse d'une manière globale. Un grand combat, et on nous dit tout simplement que Dieu est vainqueur en définitive. Donc avec cette foi dans la victoire du Christ, eh bien, nous recevons une force pour lutter dans le présent contre toutes les forces hostiles, ténébreuses, toutes les tentations qui peuvent nous assaillir, dont celle du découragement. Le découragement, une maladie bien moderne, c'est avec la dépression, vous voyez ce genre de choses. Nous devons secouer. Et la foi, l'espérance, nous permet de secouer le joug du découragement. Il est dit que la femme, après avoir échappé au dragon, au ciel, est envoyée sur la terre, au désert, où un refuge lui a été préparé. Or cette femme, la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, toute rayonnante de lumière, de la lumière d'en haut, nous est donnée à nous, pour que nous trouvions refuge auprès d'elle. Elle est l'oasis où nous devons nous retrouver. Elle est aussi, à ce titre-là, l'image de l'Église. Et quand on essaye d'interpréter ce refuge au désert, bien, il faut se dire que c'est la foi et l'espérance qui constituent ce refuge. Ce n'est pas un lieu matériel, le refuge de Marie. Marie, elle a vécu toute sa vie dans la foi et dans l'espérance, et dans la charité, bien sûr. Notamment la visite à Élisabeth le prouve. Ben, c'est ça, le lieu préparé, où elle est nourrie. C'est-à-dire qu'elle peut grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, sans être inquiétée par le dragon. Et c'est là, dans la foi, que nous trouvons nous aussi le refuge contre qui ? Contre ce dragon et contre l'œuvre que le dragon produit, à savoir Babylone, qui veut conditionner, endoctriner tous les hommes pour les éloigner de Dieu. Une société sans Dieu. Le dragon, c'est vraiment l'antithèse de l'Immaculée Conception. Vous voyez, c'est un monstre. Donc il n'a ni beauté ni contour. Il a perdu sa beauté, c'était Lucifer, ce dragon, le plus beau des anges. Eh bien, il a perdu sa beauté. Il était le plus grand, le plus puissant. Il a perdu sa fécondité. Il ne peut plus rien faire de bon. Il est incapable de le faire. Sa couleur rouge feu évoque la colère, c'est-à-dire l'absence de paix. Il est continuellement rongé par la frustration, par des désirs inassouvis, par un mécontentement permanent. Un autre aspect de ce monstre, c'est sa solitude. Qui voudrait habiter avec un tel monstre ? Et la solitude existentielle de se séparer de Dieu, eh bien, ça voue la créature, ça voue le dragon, à devenir à lui-même sa propre fin. Il ne travaille qu'à ses propres œuvres et à lui-même. Et donc, il ne peut pas s'enrichir, il s'appauvrit sans cesse. Et ainsi, tous les disciples du dragon sont voués à la monstruosité, sont voués à la colère, à la solitude. Ça, c'est les grands traits de l'enfer. La seconde mort, comme dit le texte de l'Apocalypse, elle nous la représente comme un lac de feu et de soufre embrasé où sont plongés le dragon, les deux bêtes qui le suivent et tous ses disciples. Et la mort en dernier lieu, comme saint Paul dans la lecture le souligne, le dernier ennemi soumis par le Christ, c'est la mort. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie qu'il nous donne la vie. Il a vaincu la mort en chacun d'entre nous. Et c'est ça l'Assomption, ce que l'Assomption proclame et réalise. L'Assomption, c'est vraiment le modèle de la bonne mort. J'achèverai comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'espérance ? Une définition possible, c'est le dépassement des biens et des espérances terrestres. Dépassement n'est pas négation. On continue de goûter les biens terrestres. Mais on les dépasse, on les relativise. Et c'est ça qui est important. Jésus dit dans l'Évangile, « Qui perd sa vie la trouvera. » Ça nous paraît toujours mystérieux, mais c'est ça la relativisation des appétits, des biens terrestres. Quand on renonce, on meurt à soi-même. Et on fait le chemin inverse du dragon. On cesse de devenir à nous-mêmes notre propre fin. Dieu devient notre finalité, c'est l'espérance qui nous porte vers cette destination-là. Un autre ennemi brillait aux yeux des hommes est vaincu par le fait désormais de vouloir briller aux yeux de Dieu comme la Vierge. La Vierge a vécu à Nazareth cachée, comme Jésus pendant 30 ans d'ailleurs. Elle a brillé uniquement pour Jésus et pour ceux qui pouvaient voir la lumière d'en haut. Elle a brillé pour le Père et pour l'Esprit Saint. Elle n'a jamais voulu désirer briller aux yeux des hommes. Briller aux yeux des hommes, vous voyez, cet univers des vanités, c'est un grand lieu, un haut lieu de perdition. Les gens ont l'impression, comme ils sont vides spirituellement, eh bien, il faut bien qu'ils existent, alors ils vont exister aux yeux des autres. Et le regard des autres, l'opinion des autres va devenir une véritable idole. Pauvres gens, pauvres âmes. Parce que ces lumières-là, la voix du monde, ne conduit pas. vers l'en haut. Alors, la foi, elle nous y conduit. Marie nous montre le chemin. Et Jésus est ce chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et bien, Marie est vraiment, avec le Christ, la plus grande des apôtres. Elle a le soleil qui nimbe sa tête, c'est-à-dire la lumière d'en haut qui éclaire son intelligence, et sous ses pieds, symbole de la sensibilité, des sens, eh bien, la lune se trouve là, c'est-à-dire qu'elle dompte ses appétits. Elle dédompte comment ? Pas par la force, comme on dompte un lion. Elle relativise tout simplement les appétits terrestres, parce qu'il y a un appétit, une espérance plus grande qui la parcourt, qui parcourt toute son âme, et cette espérance, c'est celle de la vie éternelle. Alors, comme le disait saint Augustin, si nous interrogeons notre âme, nous nous rendrons compte que nous n'avons qu'un seul désir, le désir de la vie bienheureuse. Suivons-le. L'éternité, ce n'est pas une succession temporelle, ce n'est pas une succession de minutes, d'heures, de jours, de mois, d'années, de siècles. Ce n'est pas long. Il faut se l'imaginer, et l'espérance nous aide à cela, comme un moment. Vous voyez, un moment de bonheur. On ne pense pas à ce qui nous a conduit jusque-là. On ne pense pas à ce qu'on va faire dans les heures qui suivent. On goûte ce moment quand il est vraiment un moment de bonheur. Eh bien, l'éternité n'est rien d'autre qu'un moment, mais un moment éternel, un moment de béatitude éternelle. Et vraiment, il n'y a pas à craindre l'usure de la durée dans l'éternité. Parce que la vie, c'est celle de Dieu que nous goûterons dans un moment qui n'aura pas de fin. Et pourtant, ce ne sera à nos yeux qu'un moment qui ne s'arrêtera pas.